France Musique. Musicopolis. Décembre 1900, Moscou. Le jeune Serge Rachmaninov, 27 ans, pianiste, chef d'orchestre et compositeur, est très inquiet en ce 2 décembre 1900. Il participe à un concert de charité. C'est pour lui un moment très important et très risqué aussi. Il va jouer les deux mouvements achevés de son nouveau concerto qu'il a écrit pendant l'été. La première œuvre de grande proportion qu'il a réussi à composer depuis 4 ans. Mais cette soirée n'est pas placée sous les meilleurs auspices. Il a un mauvais rhume et il est shooté avec des remèdes que lui ont donné ses amis. Et puis c'est seulement la 4e fois de sa vie qu'il va jouer avec orchestre. La dernière fois remonte à 8 ans déjà. Quant au chef d'orchestre, son cousin Alexandre Siloti, lui, c'est la première fois qu'il monte sur le podium. Rachmaninov a vraiment de quoi se faire du mouron. Ce concert du 2 décembre 1900 est un succès. Tout s'est magnifiquement déroulé. Le journal russe de musique trouve le concerto plein de poésie, de beauté, de chaleur, richement orchestré et d'une force créatrice saine et vigoureuse. Il conclut « À chaque mesure éclate le talent de Rachmaninov ». Voilà de quoi rasséréner le jeune homme et le rassurer sur ses facultés créatrices. Mais au fait, comment se fait-il qu'il ait eu besoin de se rassurer ? Il nous faut remonter au 15 mars 1897 pour le comprendre. Flashback. La première symphonie de Rachmaninov, œuvre d'un jeune compositeur moscovite de 22 ans, a été donnée en 1897 à Saint-Pétersbourg sous la direction de Glazounov. Une interprétation calamiteuse, qui a rejailli sur la symphonie bien sûr. César Cui, membre du fameux groupe des cinq, compositeur et critique, parle d'atroce modernisme musical. Il est même plus précis. S'il existait un conservatoire en enfer et que l'on demandait à l'un de ses talentueux élèves de composer une symphonie dramatique sur les sept plaies d'Égypte, et s'il écrivait quelque chose qui ressemblât à la symphonie de M. Rachmaninov, il serait sûrement parvenu à la solution idéale et divertirait complètement toutes les créatures de l'enfer.
Луна над ним полночной красотою блещет. Что ж сердце бедное трепещет, какую Земфира, как она
La mauvaise réception de sa symphonie en 1897 a été un coup dur pour le jeune Rachmaninov. Il commence à se laisser aller, il est déprimé. Heureusement pour lui, il est recruté comme chef d'orchestre par un opéra privé, celui du mécène Mamontov. Mamontov a fondé une compagnie et il se fait un devoir de faire travailler les meilleurs peintres, musiciens, metteurs en scène et bien sûr chanteurs. C'est ainsi qu'il a engagé une jeune basse de 23 ans dont l'opéra impérial voulait se débarrasser, Fédor Chaliapine. Rachmaninov lui fait travailler ses rôles et une grande amitié va naître entre eux. Le chanteur écrit « Quand Rachmaninov me dirigeait ou m'accompagnait au piano, nous chantions comme un seul homme ». Néanmoins, Rachmaninov est fatigué, morose. Il laisse tomber la troupe de Mamontov. Il ne compose toujours pas, mais grâce à son cousin Alexandre Siloti, il est invité à Londres en 1899 pour jouer ses œuvres. C'est le bis qui remporte le plus de succès. En avril 1899, à Londres, Rachmaninov joue en bis son prélude en ut dièse mineur et il remporte un franc succès. Il promet de revenir l'année suivante avec un nouveau concerto. Mais il est toujours aussi déprimé. Il compose quelques petites pièces, quelques mélodies pour Chaliapine, mais aucune œuvre de grande envergure. Rachmaninov est atteint, comme il l'écrit à ses amis, de mélancolie noire. À l'automne 99, il apprend que Vera Scalone, une jeune fille qu'il connaît depuis très longtemps et dont il a été amoureux, se marie. Nouveau coup. Il n'a toujours qu'une envie, rester allongé et se morfondre. Ses amis et sa famille s'inquiètent beaucoup pour lui. Que faire ? On l'emmène chez Tolstoï, qu'il admire énormément. Tolstoï est alors un vieux rabat-joie et il ne trouve rien de mieux que de demander à quoi peut bien servir la musique. En désespoir de cause, les cousins de Rachmaninov l'envoient chez un neurologue de leurs amis, le docteur Nikolaï Dahl, spécialiste d'hypnothérapie et altiste amateur. Pendant 4 mois, de janvier à avril 1900, Rachmaninov va se rendre chez ce médecin chaque jour pour s'entendre répéter des injonctions positives. Vous allez commencer à écrire votre concerto.
Vous allez commencer à écrire votre concerto.
Vous travaillerez avec une grande facilité.
Vous travaillerez avec une grande facilité.
Le concerto sera d'excellente facture.
Le concerto sera d'excellente facture.
Thank you. En apparence, la cure avec le docteur Dahl ne donne pas grand-chose. Au printemps 1900, Rachmaninov continue à écrire à ses amis qu'il s'ennuie, qu'il ne peut pas composer. Néanmoins, il est invité pendant l'été par Chaliapine à l'accompagner en Italie. Chaliapine doit chanter à la Scala. Rachmaninov profite de ce voyage pour écrire le grand duo d'amour de son opéra Francesca da Rimini, dont Modeste Tchaïkovski, frère d'eux, lui a confié le livret voici déjà 2 ans. Après son voyage en Italie à l'été 1900, Rachmaninov revient chez lui en Russie, bien décidé à se mettre au travail sur son fameux concerto, celui que le docteur Dahl lui a mis dans la tête et qu'il a promis de donner à Londres. Il commence par le deuxième mouvement, le mouvement lent. Et pour le début, il s'inspire d'une pièce qu'il a composée il y a près de 10 ans, il en avait alors 17, pour les 3 filles de ses amis Scalone. C'est l'une d'elles, Vera, dont il était amoureux et qui s'est mariée à l'automne précédent. Une pièce curieuse, écrite pour piano à 6 mains, pour jouer en famille, entre sœurs, sur le même clavier, sans craindre de se bousculer. Le début du deuxième mouvement du deuxième concerto pour piano de Rachmaninov fait donc référence à ses amies d'enfance, les sœurs Scalone, et peut-être tout particulièrement à Vera, dont il était amoureux. Peut-être la raison pour laquelle on sent dans la suite de ce mouvement une sorte d'élan mélancolique. Thank you. troisième et dernier mouvement de son concerto pour piano, à nouveau, Rachmaninov trouve l'inspiration dans une œuvre composée quelques années plus tôt, cette fois-ci un chœur religieux, mais qu'il a complètement transformé. Écoutez ce que ça donne dans le concerto. C'est vif, c'est plein d'élan, c'est dynamique, même un peu amusant, non ? Oui, vraiment, un thème de finale destiné à emporter les auditeurs. Et maintenant, écoutez l'origine de ce thème dans le chœur composé 7 ans plus tôt par Rachmaninov. Ô Mère de Dieu, toujours vigilante dans la prière. Là, vous allez entendre le même genre de profil de thème, un peu en vague et descendant, mais beaucoup plus lent. Alors, vous l'avez entendu, le caractère est vraiment complètement différent. On est beaucoup plus lent, mais tout de même, on entend bien cette alternance de notes plus longues et plus courtes. La, 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 la. Et qu'on retrouve un grand nombre de fois au cours du morceau. Ni la tombe, ni la mort ne pourraient retenir la Mère de Dieu qui est toujours vigilante dans la prière et notre ferme espérance dans ses intercessions. Ce sont les mots dits par le chœur sur cette mélodie et que Rachmaninov reprend au début du troisième mouvement de son concerto, mais reprend avec un tel punch qu'il semble bien que la ferme espérance se soit matérialisée. Espérance qui se transforme bientôt en une mélodie d'amour. Voilà peut-être le thème le plus célèbre de tout Rachmaninov. En l'entendant en concert le 2 décembre 1900, son professeur Taneïev fond en larmes en s'exclamant que son élève est un génie. Voilà de quoi redonner confiance au jeune homme. Jusque-là, il n'a composé que les 2 derniers mouvements du concerto. Il avait du mal avec le premier. Mais là, il va s'y remettre et la musique va couler à flot. Et si vous vous rappelez le célèbre prélude en Do dièse mineur, celui qui est demandé en bis à Londres, on dirait bien que Rachmaninov s'en souvient au début, avec cette alternance de notes graves et de notes aiguës, peut-être pour placer tout de suite le concerto sous une bonne étoile.
Thank you.
encore dans ce premier mouvement de son deuxième concerto que Rachmaninov a écrit un autre thème de nature à assurer son immortalité. Évidemment, on voudrait tout écouter, mais vous pourrez vous rendre sur le site des concerts de France Musique pour couper court à toute frustration. En attendant, épilogue. Après avoir achevé le premier mouvement de son concerto, Rachmaninov a fait entendre l'œuvre en entier à ses amis dans une soirée privée au printemps 1901. Très bien reçu, on s'en doute. Puis la première audition publique a lieu le 9 novembre 1901 à la Société Philharmonique de Moscou. Rachmaninov au piano, son cousin Siloti à la baguette. Le début pour le concerto d'un succès ininterrompu jusqu'à ce jour. Premier mouvement du concerto numéro 2 en ut mineur, opus 18 de Serge Rachmaninov, Sviatoslav Richter au piano, avec l'orchestre philharmonique de Leningrad, dirigé par Kurt Sonderling. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Guillaume Ledu pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.